Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en quelques jours de Yud-Shvat, jour où le Rabbi est devenu Rabbi ce Shabbat, il y a 74 ans, cette révolution planétaire qu'on ne peut pas s'imaginer. Qu'est-ce que le monde aurait eu? Comment le monde aurait été si on n'aurait pas eu ce monde, si on n'aurait pas eu cette date tellement importante? Mais c'était la date en 1950, quand le Rabbi précédent nous a quittés. Shabbat Parashat Bo, la même configuration que cette année. Le Shabbat Bo 1950, le 10 Shvat. On a parlé longuement les derniers jours, merci beaucoup. On a parlé longuement les derniers jours. Comment on a le Mahamar, le fameux discours chassidique que l'Abbé avait donné pour étudier pour ce jour-là, qui s'appelle Bati Legani. Je suis venu dans mon jardin pour rappeler comme quoi le monde, c'est pas une jungle, le monde appartient à Dieu. Il y a la lumière divine qui existe dans chaque détail du monde. Et la mission que chacun d'entre nous a, on pourra voir tout ça dans les cours sur Torah.fr, comme le cours qu'on a vu hier soir, c'est Bati Legani, c'est 1724, ainsi que le cours qu'on a vu hier après-midi, qui explique la mission de notre génération. Comment vaincre les forces du mal, comment vaincre le Hamas, comment vaincre le djihad. Et tout ça, je vous conseille vivement de revoir les cours sur l'application. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la paracha, et c'est aussi la même notion. Parce que ça y est, on a passé 2 semaines d'enfer, on va dire. Maintenant, même 6 ans, la paracha, c'est 2 semaines, mais c'est en vérité beaucoup plus long. Après les 86 ans d'esclavage, de travaux forcés. Finalement, on arrive avec la fin des 10 plaies, 3 dernières plaies cette semaine, qui sont les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Et juste après, Pharaon, il vient en pyjama la nuit, il dit au peuple juif, il dit à Moshe, je t'en supplie, fais sortir ce peuple d'Égypte. Avant qu'on va tous mourir, les portes de l'Égypte s'ouvrent devant un peuple géant, des millions de personnes qui sortent et finalement la liberté. Mais là, il y a une demande bizarre. Une demande bizarre que Dieu demande à Moshe juste avant la sortie du peuple juif d'Égypte, qui est « Va voir le peuple juif. » Et dis-leur qu'ils aillent demander à un homme de son ami et une femme de son ami des ustensiles en or et des ustensiles en argent. Allez vider l'Égypte. Dis-leur que chacun va taper sur la porte de leur voisin égyptien et leur demander un cadeau. Cadeau de revoir, un cadeau de séparation avant de partir du pays. Et la Torah te dit comme quoi le peuple juif a écouté la demande. Et les Égyptiens, ils leur ont donné tous les ustensiles d'or et d'argent qu'ils avaient. Alors, quel est le but? Tout le monde se demande la question, quel est le but? Imagine-toi que tu dis à des gens qui étaient dans les camps à Auschwitz pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, que les Américains viennent les libérer. Avant de partir, allez voir les Allemands, demandez-leur tout l'argent et l'or qu'ils ont dans la poche. La vérité, ces gens-là, la seule chose qu'ils pensent, c'est de pouvoir partir, de pouvoir... C'est pas la... Et surtout, quel est le but que les Juifs aient regardé dans les yeux de ceux de leurs oppresseurs? Ceux qui les ont rendus esclaves, ceux qui leur ont fait travailler dur, tellement dur, leur ont demandé des demandes pareilles. Rashi, commentateur de la Torah, il écrit dans la Gemara Brachot, page 9a, « Da bernak en la Torah, te dit, parle de grâce, non, c'est la chaîne Bakasha. » Ça veut dire, va à Dieu, comme s'il demande à Moshe, « Fais-moi une faveur, je t'en supplie. Ne les laisse pas partir les mains vides. » S'il part d'Égypte, qu'ils aient leur demandé tous les ustensiles en argent. « Je veux rends-moi ce service. » Pourquoi? Rashi t'explique, pour pas que le grand-père, Abraham, va venir avec un argument en me disant « Ah, ça que tu m'as dit qu'ils vont être étrangers dans un peuple qui n'est pas le leur, et qu'ils vont les faire travailler, qu'ils vont les faire travailler dur, qu'ils vont les faire souffrir, ça Dieu l'a accompli. Et tu m'as aussi promis qu'ils vont sortir avec une grande richesse, et ça tu n'as pas accompli. » De mon Dieu, il demande à Moshe d'aller avertir le peuple juif et lui demander pourquoi. Pour tranquilliser Abraham, qu'Abraham ne vienne pas se plaindre contre l'injustice divine, qu'Abraham ne vienne pas se plaindre pour dire « Ah, d'un côté, tu as fait ce que tu m'as promis d'une manière, mais la deuxième chose que tu m'as demandé, la deuxième chose que tu m'as promis, tu n'as pas fait. » On se rappelle qu'au départ, il y a 400 ans, Dieu il avait clairement dit à Abraham, il lui a dit « Sache que ta génération sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur, mais après ça, ils vont sortir avec une grande richesse. » Et on a expliqué ça il y a quelques semaines, qu'on peut voir sur Torah.fr, qu'il n'y a pas de logique derrière cet esclavage. On n'avait fait aucune erreur, il n'y a aucune punition, le peuple juif n'était pas censé être puni. Pour tous ceux aujourd'hui qui pensent connaître la pensée de Dieu et qui te disent que pourquoi il y a eu ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que c'est une punition. Quelle punition il y avait avant la sortie d'Égypte, avant l'esclavage en Égypte? C'était le cheminement que Dieu avait prévu en disant à Dieu, en disant à Abraham, que le peuple juif sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur, et après ça, on va tenir, on va sortir avec une richesse. Donc Dieu, il a dit à Abraham, Dieu dit à Moshe, je t'en supplie, va leur demander au peuple juif, va leur dire d'aller demander aux Égyptiens les ustensiles en argent et en or, pour qu'on ne puisse pas dire, qu'Abraham ne vienne pas dire après, ah, la première moitié il a accompli, la deuxième moitié il n'a pas accompli. Et donc, si on peut dire, c'est très bizarre de dire que quoi, que la seule raison pour que Dieu demande une telle demande à Moshe, C'est pour qu'Abraham, qui est décédé depuis longtemps, qui va venir avec un argument, etc., etc. D'abord, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on en a à faire de la demande d'Abraham, la plainte d'Abraham? Dieu, il a promis qu'on allait sortir avec une grande richesse, il doit faire sa promesse. Dieu, il a dit que le peuple juif va sortir d'Égypte avec une grande richesse. Pourquoi pas le faire? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on dit une bénédiction, on répond à la fin « Amen ». C'est quoi « Amen » C'est pas « Amen » quelque chose. « Amen » veut dire, c'est un acronyme de trois mots. « Amen » c'est « Kel Melech Naaman ». Dieu, c'est un Dieu fidèle, un Dieu à qui on fait confiance. Il a dit quelque chose, il va le faire. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Haftara, en général, les bénédictions de l'Haftara? Dieu, chaque chose qu'il dit, il promet et il le fait. C'est ce qu'on dit dans Baruch Shamar tous les matins. Baruch Omer Veoseh, Baruch Gozer Omkayem. Dieu, ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il décrète, il accomplit. Dieu, il a promis à Abraham qu'on allait sortir avec une richesse. C'est tout à fait normal qu'on soit. C'est pas parce que peut-être qu'Abraham va venir se plaindre. Qu'est-ce que j'en ai à faire s'il vient ou vient pas se plaindre? Dieu, il a promis, il doit le faire. C'est comme si tu vas me dire, ah, si Abraham il est endormi, il va pas venir se plaindre et j'ai pas besoin de remplir ma promesse. Dieu l'a promis, il doit le faire. Deuxièmement, disons qu'Abraham il va venir en disant que c'est pas juste. Tu as promis quelque chose. Dieu peut pas lui dire le fameux mot que tous les Israéliens connaissent qui s'appelle Savlanout. Patience. Rashi lui-même nous rappelle plus tard ce qui s'est passé dans une semaine. On sort d'Égypte cette semaine. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Dans Béchalach, on va traverser la mer Rouge. Et qu'est-ce qui se passe sur le bord de la mer Rouge? On voit comment tous les Égyptiens, les soldats égyptiens sont noyés. Et ils sont tous partis avec leurs diamants qu'ils n'ont pas donnés au peuple juif, qu'ils avaient cachés dans leur poche. Et là, le peuple juif, il voit comment tous les diamants, les pierres précieuses, etc., des Égyptiens étaient rejetés sur le bord de la mer. Et le bord de la mer a rejeté toute cette richesse. Et le peuple juif s'est venu pour ramasser toute cette richesse qu'on appelle Bizatayam. À tel point que Rashi est écrit que toute cette abondance de richesses qui était sur le bord de mer était beaucoup plus grand que tous les cadeaux qu'on a reçus en sortant d'Égypte. Donc on demande si jamais Abraham il vient avec une plainte en disant « Ah, tu n'as pas accompli ce que tu m'as promis !» Dieu lui dit « Écoute-moi, cher ami, c'est écrit nulle part que je dois te faire ça tout de suite. Attends quelques secondes, attends quelques jours, ils viennent sortir, ils vont arriver en Égypte, ils vont arriver sur le bord de mer, et là tu vas voir. Et la preuve, c'est qu'ils sont devenus riches plus tard. » Donc si de toute façon il y a eu ce deuxième point où ils ont pu devenir riches et avec ça Dieu a accompli sa promesse, quel était le but? Qu'avant de partir d'Égypte, il fallait taper aux portes de tous les voisins et leur dire, écoutez chers amis, avant de partir, merci pour l'esclavage de 86 ans, donnez-moi tous les ustensiles en argent et en or que vous avez, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce Shabbat, c'est le Shabbat que Rabbi est devenu Rabbi à 74 ans. Cette pensée, la réponse qu'on va voir, c'est la pensée révolutionnaire du Rabbi qui nous prend, qui nous montre. C'est la leçon que la Torah a voulu faire passer avec ce message, c'est une leçon qui n'était pas seulement valable à l'époque, mais c'est valable aussi aujourd'hui. Et on voit comment, on a parlé que les nouveaux cours qu'on va commencer à mettre à bas, c'est Dieu va partir dimanche prochain, le matin, le GLI, Advice for Life, les conseils pour la vie, des conseils pour la vie utile, basé d'après l'enseignement du Rabbi qui est enseignant en ce moment, c'est à partir de la semaine prochaine, dans plus de 700 endroits sur la planète. Avec des conseils richissimes, avec toutes ces personnalités de tous bords, juifs ou non-juifs, avec des vidéos, avec des lettres, qui sont venus demander conseils du Rabbi sur tous les sujets, sur le commerce, sur la vie, sur la santé, sur la famille, sur le travail. Et on voit comment ce point, il revient à chaque fois dans chacune de ces conseils qu'il avait pu donner. L'idée ici n'est pas l'argent. Ce n'est pas le fait d'aller demander de l'argent aux Égyptiens, donnez-moi vos ustensiles en argent et en or. C'était de pouvoir, ce qu'on appelle, comment on appelle ça aujourd'hui, de redonner valeur, redonner confiance, redonner cette fierté au peuple juif qui avait été piétiné, qui avait été rabaissé pendant tout cet esclavage. Abraham ne s'est pas battu pour enrichir ses enfants. Abraham il voulait que ses enfants, quand ils sortent d'Égypte, ils sortent comme des vainqueurs. Ils sortent comme des gens qui ont la tête haute, pas comme des êtres humains brisés, des êtres humains qui ont été massacrés, et qu'ils ont peur de leur existence, pour ça qu'ils sont en train de souffrir. Et le seul moyen de pouvoir obtenir une chose pareille, c'est qu'ils aillent voir les Égyptiens en leur demandant des cadeaux, et qu'ils puissent les regarder dans les yeux, et que les Égyptiens vont devoir leur donner tous les plus beaux ustensiles qu'ils ont. Et c'est ce que la Torah cherche. La Gemara te raconte, avant cette histoire, 1500 ans plus tard, depuis la sortie d'Égypte, le grand roi Alexandre le Grand arrive dans la même région. Et lui, il a déjà conquis en quelques années tout ce qui est le Moyen-Orient, des parties de l'Asie. J'y arrivais jusqu'en Inde. Et il commence à faire tout ce qu'on appelle une grande conférence au Moyen-Orient et il ramène tous les dirigeants de toute la région. Et vient le représentant égyptien, 1500 ans plus tard, vient le représentant égyptien. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande des dédommagements du peuple juif. Il dit qu'avant la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé avant la sortie d'Égypte? Il dit qu'avant la sortie d'Égypte, on est parti leur demander, soi-disant, leur emprunter des ustensiles en argent et en or et des habits. Et ils ont compris qu'on était là pour leur emprunter ces choses-là, pour avoir comment cuisiner dans le désert, faire des pitotes ou des mouflettes ou je ne sais pas quoi, et qu'on va leur rendre. Au final, on s'est enfui, on ne leur a pas rendu. 1500 ans plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens, le peuple juif demande ce que les Allemands ils ont enlevé pendant la guerre, qui rendent les biens qu'ils ont enlevés aux Juifs, ou les Polonais, ou en Russie, qui rendent des synagogues, etc. On parle de 1500 ans plus tard. Le peuple juif a eu très peur. Alexandre le Grand est prêt, bientôt le nouveau patron. Il ne sait pas quoi répondre. La Gemara te raconte comment un juif simple se lève et s'appelait Gvia ben Bessissa. Bessissa, il vient et dit, moi je vais vous répondre. D'où vous savez qu'on a pris tellement de choses chez vous avant de partir? La paracha de Bo, paracha de cette semaine, paracha dans laquelle c'est écrit qu'on a demandé de leur donner de l'argent, et qu'on vous a demandé des ustensiles, des habits, etc. Il fait la même Torah, nous dit, que vous avez rendu esclaves 600 000 personnes pendant 430 ans, avec les travaux forcés en Égypte, il y a différents calculs, c'était les 400 ans, 430, 126, 86, peu importe. Vous n'avez pas payé un centime. Masse salariale, charge patronale, vous n'avez pas payé aux salariés. Alors que vous savez qu'on va faire l'échange, il n'y a pas de souci, on vous rend vos ustensiles. Maintenant, on va vous demander le salaire complet du travail de centaines de milliers d'employés qui ont travaillé chez vous pendant tant d'années. Vous verrez, ça vaut la peine. Et la Gemara termine que les représentants égyptiens se sont levés et se sont enfuis. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en dette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font passer des requêtes de la Corée du Nord, de la Russie, de je ne sais pas où, de Tir Philadelphie par Gaza. Et qu'Israël est tenu à découvrir tellement de quantités d'armes et d'armes et d'armes et de tellement de requêtes. D'où ils sont passés tout ça? Par l'Égypte. Pas par où ils doivent passer? Par la mer. Ça, c'est la parenthèse qui fait mal au cœur que hier, encore une fois, on renvoie la population revenir dans l'ordre de Gaza, qu'alors soi-disant, on avait nettoyé. Et ce matin, hein, des dizaines de requêtes qui tombent sur les tivots de l'endroit que ça allait partir. Mars sur la tête, parenthèse fermée. Gvia Ben Bessissa, elle a demandé que demander l'or et l'argent qui sort d'Égypte. C'était. Donc il explique qu'en réalité, ce qu'on a demandé, c'était pas juste demander des choses. C'était comme un salaire pour ce qu'on a travaillé dur. Maintenant, quand un employeur, il paye à un employé, pourquoi il paye à un employé? Pour deux choses. Tout d'abord, pour que la personne puisse vivre et se nourrir à travers le salaire. Deuxièmement, ça donne le sentiment à l'employé qu'il a contribué quelque chose à la société, il a contribué quelque chose à la communauté. L'argent, c'est juste un moyen de pouvoir donner ce sentiment qui est beaucoup plus élevé que la matière, juste ce billet d'argent. C'est pas juste pour acheter des courses et faire des courses. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a compris que le deuxième composant dans le salaire est beaucoup plus important, et plus important parfois que le premier. Tu as parfois des gens qui abandonnent des sociétés où ils ont des travaux qui sont des places très élevées, où ils ont des très grands salaires, s'il leur manque le deuxième composant de se sentir partenaire, de se sentir combien ils contribuent à la société, combien ils contribuent au travail. Tu as des gens qui sont prêts à quitter des emplois énormément importants parce qu'ils se sentent usés, ils se sentent non valorisés, même s'ils ont un grand salaire. Ce n'est pas le salaire qui compte, il n'y a pas que le salaire qui compte. Aujourd'hui, tu as des grandes sociétés qui sont prêtes de tout faire pour investir énormément d'argent pour garder leurs employés en leur donnant le sentiment que c'est une grande famille, que c'est une grande maison, en donnant une autonomie à un employé, en donnant le choix à un employé, qui lui montre comment il est central dans l'affaire, etc., etc. Ça, c'est la réponse que Dieu dit à Moshe. Si j'ai envie, je peux me rendre quitte du devoir que j'ai pris sur moi de leur donner cette richesse que j'ai donnée à Abraham avec ce qu'ils vont recevoir sur le bord de la mer Rouge, quand ils sont partis chercher la richesse sur le bord de la mer Rouge. Cette promesse que j'ai dit que le peuple juif va sortir avec une grande richesse, je peux le faire de différentes manières. Et ils vont le recevoir en se jetant sur le bord de mer, ramasser l'argent, etc. Et ils vont sortir de l'exil d'Égypte, de la sortie d'Égypte, avec une énorme richesse. Ça, il n'y a pas de problème. Si Dieu il veut nous rendre riche, il peut le rendre riche de cette manière-là. Mais Abraham, qui est le père, ne sera pas d'accord avec ça. Abraham, qui est le père du peuple juif, quel est quoi son problème? Abraham, lui, il se dit, où est la gloire? Où est l'honneur? Où est l'honneur de mes enfants? Quel type de personnes vont sortir de là-bas totalement brisées, brisées moralement, brisées physiquement, avec la tête basse, comme des voleurs, alors qu'ils se sont fait massacrer pendant 86 ans? Ça fait presque 100 ans que toute leur valeur, leur estime de soi a été rabaissée jusqu'à terre. Ils ont passé tellement, je veux dire, de
souffrance.
Pas seulement de souffrance physique, souffrance morale, abus.
Humiliation,
exactement, merci. Qui a fait qu'il y avait des travaux forcés dans la. Et pas seulement les travaux forcés qui servaient à rien. C'est pas qu'on a construit des bâtiments d'habitation, c'était des tours qui servaient à rien. Il y avait le fait de servir de manière tellement dégradée dans les maisons égyptiennes, de verser le sang des Juifs, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tous nos ennemis qui font souffrir, que ce soit les otages, qui font souffrir le peuple juif, ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas juste vouloir tuer, etc. C'est juste rabaisser, humilier, montrer que t'as aucune valeur. Parce que c'est des gens qui sanctifient la mort, donc aujourd'hui, ils n'ont aucun problème avec la vie. Donc chacun du peuple juif, il se sentait totalement brisé, apeuré, sans aucune valeur. Alors oui, c'est vrai que le corps, il est sorti. Arrive la sortie d'Égypte, parachat cette semaine, on voit comment le corps juif est sorti. Très bien. Mais l'âme, elle est restée très profonde en exil. Je rappelle à chaque fois que je suis arrivé en Ukraine, en Russie, en 94, la première fois, 4 ans après le communiste. Tu voyais des juifs qui sont venus à la synagogue le matin, on voyait tous, j'étais là pendant 3 mois, 4 mois, depuis juin, juillet, depuis que le rabbi nous a quittés matériellement, c'était en juin 94 jusqu'à octobre. Il y avait quoi? Chaque Shabbat, il y avait 65 personnes. Chaque jour, je veux dire, chaque des juifs qui venaient à la synagogue prier. Mais tu comprenais que le communiste, peut-être, il est tombé. Mais dans leur tête, ils ne sont pas communistes. Ils sont 10 fois communistes. Tu marchais dans la rue, je me rappelle, je marchais dans la rue et les gens, ils se retournaient pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les suit. Et combien tu peux essayer de leur faire comprendre que le communiste, il n'est plus là officiellement? Dans leur tête, ça ne marche pas. Ils ont été tellement formatés de cette manière qu'ils ne comprenaient pas que tu leur dis, mais non, ça va, tu peux venir à la synagogue. Personne ne va te couvrir derrière. Personne ne t'attend à la porte de la synagogue pour rapporter à la police en disant qu'il est venu prier, comme il se passait justement. Et donc, il y avait ce traumatisme, il y avait ces blessures psychiques, qui étaient beaucoup plus graves que les blessures physiques, de cette dépendance totale des Égyptiens. Et ça, ce n'est pas une manière comment tu peux recommencer une nouvelle vie. À quoi ça ressemble? J'ai dit, il y avait un juif hongrois qui, une fois, il a raconté le sentiment qu'il avait en tant qu'adolescent au moment de la Shoah. C'est que la vie d'un juif avait beaucoup moins de valeur que la vie d'un chien. Si un chien était... On l'a roulé dessus dans la rue, tout le monde se débarrassait rapidement pour aller essayer de nettoyer son cadavre, que les gens vont parler. Mais si on tapait ou on tuait un juif, personne ne s'arrêtait pour savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose. C'est comme si ça n'avait aucune valeur. Tu as des autres personnes qui sont sorties de la Shoah qui racontent, et je raconte ça aujourd'hui, c'est le jour de la skier de ma grand-mère, qui est sortie des camps de Dachau. Aujourd'hui, elle est décédée en 2009, le 6 Shvat, pour ça, c'est quoi aussi là, sa mémoire. Que quelqu'un qui est sorti de la Shoah, il raconte que quand il est sorti des camps, il cherchait à se marier seulement avec une femme qui avait sauvé des camps. Pas une femme qui n'a pas connu les camps. Pourquoi? Parce qu'il dit seulement elle pourra comprendre les rêves et les cauchemars et toute la tristesse et toute l'atrocité qu'il a subie et les cris dans le milieu de la nuit, elle pourra le comprendre. Quelqu'un qui n'a pas vécu de cette manière ne pourra pas le comprendre. C'est pour ça que la Torah, elle vient. Et la Torah, elle te dit la phrase suivante. La Torah, elle te dit... Que Dieu dit à Moshe, si tu vas demander au peuple de venir et ils vont s'enrichir sur le bord de mer, bien sûr, peut-être qu'ils vont s'enrichir. Mais ça ne va pas en remonter leur morale. Ça ne va pas les élever à ce niveau de pouvoir regagner leur gloire, leur fierté, leur valeur, leur psychisme, de pouvoir leur état d'esprit qui va pouvoir sortir avec, qui va lui aussi être libéré. Donc je te demande de demander au peuple juif, malgré que c'est dur pour eux d'aller affronter leurs agresseurs dans la figure, d'aller les voir taper à leur porte. Quand ils vont aller les voir en tapant à la porte du début, on est fiers de qui nous sort. Et on va sortir d'Égypte. Je raconte à tout le monde, j'ai le cours que je fais grâce à Dieu sur Internet, beaucoup de gens les voient. Il y a un cours que j'ai fait il y a 2 semaines, 3 mois du 7 octobre, qui est l'enseignement, pleine punition, etc. Il y a un musulman, un arabe, qui a écrit un commentaire. Je vais voir sur YouTube en disant, arrêtez de propager le sionisme, arrêtez de nous faire savoir des mensonges, je n'étais même pas capable de combattre le Hamas. Qui sont ces 6 pays qui attaquent Israël? J'ai répondu. Pas le commentaire sur YouTube. Et j'ai répondu à votre. J'ai dit, c'est quoi les 6 pays qui attaquent Israël en ce moment? T'as l'Irak, t'as le Yémen, t'as les Houthis, t'as la Syrie, t'as le Liban, t'as le Hezbollah, t'as le Hamas, etc. Après, il me dit, le Hamas, etc. Et après, il me dit, comme quoi, arrêtez de propager le sionisme. J'ai dit, écoutez-moi une chose. Non, il me dit, comment? Vous n'arrêtez pas de rabaisser le peuple palestinien, etc. Je lui dis, écoute, c'est difficile de s'excuser pour rabaisser un peuple qui n'existe pas. Numéro 1. Et numéro 2, j'ai fait propager le sionisme. Je lui dis, écoute, on existe depuis plus de 3000 ans quand même. Je fais, c'est pas quelque chose qu'on a à se cacher. Tout le temps que c'est pas nous qui sommes là pour partir, pour brûler, torturer, découper, violer des innocents, on n'a absolument rien à se cacher. C'est pas à nous de se cacher. C'est plutôt à des gens qui ont tout à se reprocher. C'est à eux de se cacher. Viens la Torah, elle te dit, c'est pour ça que Dieu a voulu que le peuple juif pour pouvoir regarder dans les yeux ces Égyptiens et leur demander d'ouvrir vos trésors. Ces Égyptiens que hier, ils les ont massacrés, leur ont donné des coups, ils leur ont fait mal. Ils vont devoir ouvrir leurs portes à ces juifs. Et là, ils vont devoir découvrir les trésors qu'ils ont chez eux. Ils seront obligés de leur donner leurs trésors de la manière la plus large possible. Pas d'une manière comme si c'est bon, pas grave, vas-y, pars. Les sincères, c'est tu t'en vas. Non, je m'en vais pas les mains vides. Alors, 2 mots, ce que Dieu cherchait, c'est pas seulement que les poches soient pleines, c'est que le cœur soit plein. C'était une manière de réparer, de redonner ses sentiments au peuple juif, de redonner cette gloire, de savoir comme quoi j'existe, j'ai de la valeur. Je ne suis pas juste un grain de sable qui a été piétiné par la masse et qui n'a aucune valeur. Et Abraham, il n'est pas prêt à pardonner sur ça. Abraham, il était quelqu'un qu'il demandait pas seulement qu'il y a l'argent et l'or pour ses enfants, mais qu'il y a aussi son estime de soi, qu'il y a sa valeur, qu'il se considère qu'il n'est pas juste quelqu'un qui vaut rien. Non, il est un enfant d'Abraham et de Sarah et Jacob, il a toute sa gloire, il a tout son honneur, et que son honneur soit rétabli. Quand on parle, j'ai dit ce Shabbat, le Yud Shvat, qui est le jour que le Rabbi est devenu Rabbi à 74 ans. Combien on voit que le Rabbi a fait ça à travers toute sa vie? De savoir donner le sentiment à chacun qu'il a toute sa valeur, qu'il a toute sa place, que chaque individu a toute sa place. Quelqu'un, une fois, il était à côté de la drôle de Rabbi dans le Rabbi du dimanche, qu'on pouvait voir pendant des heures et des heures, depuis 11h du matin, 10h30 jusqu'à des fois 5h, 6h, 7h du soir, debout pendant 7, 8 heures à 90 ans. Et il a vu que le Rabbi qui est proche de 90 ans, il voit comment il donne un dollar, il prend la main, il donne un dollar à quelqu'un. Après, il donne un dollar, comme ça plusieurs fois. Ce juif ne pouvait pas s'arrêter, il a demandé au Rabbi d'où vous avez la force pour ça. J'ai dit, imagine n'importe quelle personne de faire ce geste, juste 10 minutes, un quart d'heure. Tu es après, tu es fatigué. J'étais chez le kiné la semaine dernière, m'a demandé de faire un geste avec le corps, etc. Tu fais 15 minutes, tu es déjà fatigué, tu n'as plus les forces de le faire. Et on n'a pas 90 ans. Et la Bible a répondu, quand on compte des diamants, on ne se fatigue jamais. La Bible a dit, je ne suis pas en train de distribuer de l'argent. C'est partager cet amour, le sentiment que chacun a toute sa valeur. Combien de gens racontent comme quoi, en passant devant le Rabbi, ils pensaient qu'ils étaient le seul qui existe sur la planète. Il n'y a personne d'autre autour. Il n'y a aucun autre souci, il n'y a aucun autre problème. Et avec ça, le Rabbi te dit que quoi? Que là, on comprend aussi ce qui est écrit dans Pirkei Avot, les maximes de nos pères, chapitre Mishnah 5, chapitre 5, Mishnah 10. Ça dit qu'il y a quatre critères chez l'humain. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, c'est un ignorant. Les mots, tu n'as rien gagné dans l'affaire. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi, c'est un chassid. Quelqu'un de pieux. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à moi, on dit que c'est un ignorant. Il est bête comme tout, c'est un imbécile. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi, c'est un chassid. Rabbi dit, je ne comprends pas cette phrase. Tu sais, ça veut dire une chose pareille, il faut tout donner. Tu prends ma veste, prends mes chaussures, prends ma voiture, prends ma maison. Ça, c'est pour ça qu'il faut être un chassid. Et de quoi lui il va vivre? C'est dans tout ce qu'il a, de quoi il va vivre? C'était en 1979. Rabbi te dit, la Mishnah ne te dit pas qu'il faut tout donner. La Mishnah te dit de celui qui dit, qu'est-ce que ça veut dire? De donner le sentiment à l'autre que tout lui est dû. De donner le sentiment à l'autre qu'il n'est pas à rien, qu'il n'est pas quelqu'un qui vaut rien. Beaucoup plus que donner de l'argent, c'est donner le sentiment que je te valorise, je t'aime, je te donne plus que qu'est-ce que je peux donner. C'est un mérite que j'ai de pouvoir t'aider, de pouvoir te donner encore plus. Et parfois, ce sentiment est beaucoup plus important que l'argent. La Gemara Baba Batra, page 9, te dit la phrase suivante. Celui qui donne la tzedaka à un pauvre, il est béni avec 6 bénédictions. Celui qui le console avec des bonnes paroles, il est béni avec 11 bénédictions. Parce que ce n'est pas seulement qu'il donne pour l'aider. Il ne donne pas seulement quelque chose de matériel, mais il donne le sentiment que la difficulté, elle est momentanée et qu'il y a de l'espoir et qu'il va s'en sortir. Et de l'autre côté, la même halakha te dit que quelqu'un qui donne la tzedaka avec une mauvaise figure, avec un mauvais visage, avec amertume, mais si prends ton chèque et casse-toi en bon français, comme les gens ont l'habitude de me dire régulièrement, ou prends ton don, tu sais quoi, vas-y, laisse-moi tranquille. Ils ne sont pas récompensés pour ce geste de mitzvah. De donner un sentiment à quelqu'un comme si tu es une ordure, tu ne vois absolument rien, tu ne casses la tête avec tes bêtises. Il y a un but dans la halakha qui te dit clairement qu'il n'y a pas seulement le devoir de donner des zakat, mais de se donner avec un visage chaleureux, en confortant une personne, en encourageant une personne, en donnant à une personne qu'il n'est pas là juste parce qu'il n'a pas les choix. Non, que si Dieu veut, les situations vont s'améliorer. Combien de fois dans la vie de chacun d'entre nous, tu as tellement de gens, que ce soit dans le rapport parent-enfant, dans le couple, que là, des fois, un enfant qui vient et qui dit à son père en disant « Tu ne me calcules pas, tu ne me vois même pas, tu ne te considères même pas avec moi. » Et le père, il ne comprend pas, il dit « Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux de moi ? Toute ma vie, j'ai tout fait pour toi, que ça veut dire que je ne te calcule pas, que je ne suis pas là pour toi. Tout ce que tu as demandé, tu as toujours reçu. Tu as appuyé sur un bouton, tu l'as eu. » Écoutez cette histoire. Et c'est une histoire qui est tellement riche quand on parle de parent-enfant. C'était une nuit à Kfar-Chabad. Kfar-Chabad, c'est un quartier avec les Lubavitch, etc. C'était quelqu'un, un ami à moi qui raconte, il y a quelques années, c'était déjà presque 1h du matin. Et sur le banc étaient assis plusieurs jeunes. Et malheureusement, des jeunes, on va dire, on appelle ça en anglais des dropouts. C'est-à-dire des gens qui ont dévié du système, qui ne sont pas dans le système de l'école, la maison, qui vont dormir à 1h. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur les bancs, on fume, on va savoir qu'est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qu'ils boivent, etc. Qui n'ont pas réussi, ils n'avaient aucun moyen, aucun, on va dire, un grand enthousiasme de se réveiller le lendemain matin pour un but, pour une raison, etc. Le matin ne les intéressait pas. Je suis parti leur parler. Je parlais à un des jeunes qui était là-bas et je lui ai dit « Pourquoi tu vas pas à la maison ?» Il dit « Laisse tomber, je veux quelque chose pour quelqu'un. Quelqu'un s'intéresse à moi. » Je lui ai dit « Écoute, aie pitié sur ton père. Bientôt, il devra se lever. Il va pas dormir tout le temps qu'il te voit pas à la maison. » Il m'a dit « Tu sais quoi ? Je peux te jurer que mon père ne m'aime pas. Il aurait préféré que je sois né chez les voisins. » Tu dis pourquoi tu dis une chose pareille. Je regarde tes chaussures, c'est des chaussures qui coûtent 500 shekels. Ta chemise, elle coûte 200 shekels. Je rappelle à ma mise que ton père est à fait, ça a coûté 100 000 shekels. Pourquoi tu dis que ton père est pas? Pourquoi tu as aucun rapport? Je vois qu'il s'est bien inquiété, ça. Il m'a répondu la phrase qui m'a frappé. Mais tout ce que mon père a fait, il a fait pour lui. Mais quand est-ce qu'il a fait quelque chose pour moi? Quand est-ce qu'il m'a montré que moi, j'ai de la valeur à ses yeux? Pas ce qu'il a fait pour lui, pour se dire, regarde ce que j'ai fait à mon fils, regarde ce que je lui ai payé, regarde ce que je lui ai donné. Quand est-ce qu'il a fait quelque chose pour moi? Et avec cette phrase, il reprend tout ce qu'on vient de voir. Pourquoi la paracha de cette semaine te donne l'importance que le peuple juif devait demander aux Égyptiens ses ustensiles d'argent et d'or? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour, c'est pas ce que nous on appelle l'amour. C'est ce qui se passe à leurs yeux, ce que leurs yeux considèrent comme amour. Et l'amour, tu ne veux pas acheter en achetant des jeux à 50 000 shekels ou 50 000 euros, mais donner le sentiment à l'autre qu'il a de la valeur et qu'il vaut quelque chose. Et ça, c'est la chose la plus belle qui peut nous arriver. En deux mots, le plus beau cadeau que des parents peuvent donner à un enfant, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont le plus beau cadeau qu'eux, ils ont reçu. Pas de les dire, tiens, je t'achète tel jeu. Non. Que les parents, ils disent, et qu'ils font comprendre à un enfant que toi, tu es le plus beau cadeau de ma vie. Toi, tu es la plus chose la plus importante que j'ai pu avoir dans ma vie. Et c'est pour ça que la Torah te demande la sortie d'Égypte. Tout le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? Végat à la mincha. Transmettre à tes enfants. C'est toute l'histoire de la fête de Pessah, qu'on parle dans la paracha de cette semaine. De savoir passer du temps avec les enfants, apprendre avec les enfants, aller faire des achats avec les enfants. Peu importe, donner le sentiment que ça, c'est la chose la plus importante qu'on a dans la vie. Et c'est exactement la même chose, comme je te dis, pas seulement pour le couple, aussi pour le, pas seulement pour l'éducation, mais pour le couple. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'est tellement riche. J'avais une fois un matin, un des rabbins de Vijnitz, qui est revenu de la synagogue, et il passe par la grande rue en Israël, j'ai oublié le nom de la rue, où il vend plusieurs magasins, plusieurs bijouteries. En général, il marchait très vite, sans regarder droite et gauche. Et là, il est arrêté, il est rentré dans une bijouterie, et le patron, il est tellement émerveillé, quoi, le rabbin de Vijnitz, il vient dans la bijouterie pour acheter quelque chose. Bon, c'est quelque chose que ça arrive pas tous les jours. Et il a tout laissé tomber pour le soir. Il dit, je cherche une très belle montre pour ma femme. Il sort de son tiroir les plus belles montres, il lui montre plusieurs exemples. Et il dit, peut-être qu'il y a une femme dans le magasin. Il dit, parce que moi, je ne connais pas exactement le goût de ma femme. Une femme, certainement, elle pourra connaître qu'est-ce qu'une femme, elle aime ou pas. Elle va savoir, je vais te prendre une montre qui est faite pour un homme, qui n'est pas faite pour une femme ou quoi que ce soit. Et la femme du patron, elle va maintenant à la caisse, elle regarde les montres, elle dit, écoute, moi, je pense que connaissant la rabbinite, ça, c'est quelque chose qui peut lui plaire. Et je pense que d'après son style, après, c'est quelque chose qui va lui plaire. Il a dit, ah, c'est magnifique. Il a payé et sorti du magasin aussi vite qu'il est rentré. L'autre, il n'a pas compris. Il a dit, Rabbi, désolé que je vous demande. Mais pourquoi vous êtes rentré dans le magasin? D'abord, la rabbinite, elle n'a pas besoin de montre. Deuxièmement, c'est pas important pour, c'est pas honorable pour quelqu'un aussi important comme vous. Il rentre dans le magasin pour prendre la rue comme ça pour acheter une montre. Vous aurez pu appeler le patron. Et il serait venu joyeusement à la maison avec un tiroir de montres. Vous aurez montré comme les gens, les grandes classes, ils font. C'est pas au rabbi de s'arrêter. Écoute ce que le rabbi de Vijnitz s'est répondu. Mais une histoire tellement riche et tellement importante. Il a dit comme ça. Fais crois-moi que la rabbinite, elle n'a pas besoin de montre. Je peux lui chercher une montre. L'histoire est différente. Hier soir, je suis rentré de la synagogue, la prière de Maariv. Je passe par le magasin. Et j'entends du magasin des cris. Espèce d'idiot, espèce de beau à rien. Ça fait 2 semaines que tu n'as absolument rien vendu. Pourquoi tu viens au travail? T'es un employé qui sert à rien. Reste à la maison, tu fais rien ici, tu perds ton temps, etc. C'était le patron du magasin qui s'est énervé contre sa femme. J'ai décidé de lui rendre sa gloire. J'ai décidé de lui rendre son honneur et de montrer à son mari combien de valeur sa femme a. Pas parce que ma femme l'a donné. Et combien la vie nous a montré, je te dis, avec tellement de c'est sans fin, c'est ça le nouveau cours qu'on va faire, si je veux, je te dis, à partir de dimanche matin prochain, dans 10 jours, on va travailler pendant 6 cours, Advice for Life. Tellement riche, ces conseils du Rabbi sur le sujet de la vie, que ce soit sur le couple, l'éducation, la famille, la santé, le travail. Combien il y a le mot, on dit en anglais, empowering, de donner les forces, de renforcer l'autre, de lui donner les forces de pouvoir lui le faire. La fameuse phrase que Dieu l'atteint de ça, ça veut toujours l'habitude de dire, Rabbi n'a pas créé des followers, il a créé des leaders. Rabbi ne cherchait pas à créer des gens qui le suivent comme des moutons, sans réfléchir, mais créer des dirigeants. Rabbi cherchait à rendre chacun d'entre nous un dirigeant. Chacun d'entre nous un ambassadeur de Dieu pour répandre la lumière sur terre, répandre le bien sur terre, chacun à son niveau, chacun a le devoir de le faire. Voilà, chers amis, on avait le cours sur la parasha de Bo cette semaine. Le cours, on replace sur eTorah, eTorah.fr, si Dieu veut. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.